fera la tête et non la queue. Tu seras en haut et jamais en bas, en bas, en bas. Tu mangeras la graisse et non les miettes. Héritier, héritier de la prééminence. Tu mangeras la graisse et non les miettes. Héritier, héritier de la prééminence.
Que vous allez suivre est une production de la Maison de la Destinée, église évangélique dirigée par le pasteur Georges Amoako Pimpé, 6 à Abidjan, Côte d'Ivoire. Pour d'autres informations, contactez-nous au 225 22 49 31 47. Notre adresse électronique est houseofdestiny2004@yahoo.fr. Visitez notre site web au www.eglisesansmur.com. Merci. Et bonne écoute.
Bonjour, chers auditeurs. Je suis Nadia Biassi et c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous parler des noms de Dieu. Comme je vous l'avais dit la semaine dernière, et bien que je suis soit le nom de Dieu, les Hébreux anciens utilisaient d'autres noms pour décrire sa nature et son caractère. C'est ainsi que l'on parle souvent des noms de Dieu, bien qu'il s'agisse en fait d'expressions de sa personne ayant pour but de dépeindre ce qu'il est en réalité. Depuis le temps d'Adam jusqu'à celui de la naissance de Christ, le Seigneur a donné à son peuple une révélation toujours plus grande de son caractère. Mais aujourd'hui, nous parlerons de Jéhovah Nissi. Bonjour, pasteur.
Bonjour, Nadia. Bonjour, chers auditeurs. Nous allons effectivement parler de Jéhovah Nissi, qui veut dire l'Éternel, notre bannière. Amalek fut la première nation a déclaré la guerre à Israël. Par la suite, Amalek fut aussi la première nation à laquelle Dieu déclara la guerre. Le livre de l'Exode nous rapporte ainsi la déclaration contre Amalek et les circonstances dans lesquelles Dieu va les prononcer. Nous allons prendre nos Bibles dans Exode chapitre 17 du verset 8 à 16 que je lis pour vous. Amalek vint combattre Israël à Rephidim, Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek, et Moïse, Aaron et Hur montaient au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre, et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Il dit, « Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. » Dans ce texte, deux versets retiennent mon attention. Les versets se trouvent à la fin de ce passage. L'Éternel dit à Moïse, j'effacerai le souvenir d'Amalek du dessous les cieux. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. C'est le verset 14 et 16. Le Seigneur y fait une déclaration permanente de guerre à une nation particulière. Mais quelle était cette nation du nom d'Amalek? Qu'y avait-il sur ces gens-là qui pouvaient amener le Seigneur de l'univers à vouloir mettre noir sur blanc une déclaration qui revient à dire « Je vous combattrai de génération en génération et je veillerai à ce que vous soyez entièrement détruits afin que même votre souvenir soit effacé de l'histoire. » Cette déclaration nous dit quelque chose de très important en relation avec le combat livré par Amalek contre Israël à Rephidim. De toute évidence, ce conflit allait bien au-delà d'un simple combat physique local. L'enjeu va plus loin que le fait que Moïse se soit tenu sur la montagne, les bras vers le ciel, pendant que Josué conduisait les troupes d'Israël au combat. Il nous dit qu'Israël remportera la bataille. Mais quand on apprend davantage sur son ennemi Amalek, il devient clair que l'enjeu est plus grand qu'il ne paraît au premier regard. En fait, cette guerre entre Israël et Amalek allait durer des siècles. Je crois que le conflit constant avec Amalek représente le combat spirituel qui est livré encore aujourd'hui. Cette guerre implique chaque chrétien. Voyez-vous, Amalek représente l'hostilité du diable envers Christ et son corps sur la terre. Cette guerre permanente continue parce que Satan n'a jamais cessé de mettre toute son énergie à essayer de contrecarrer les plans éternels de Dieu. Il est bon d'examiner exactement qui étaient les Amalécites. Ils étaient les descendants d'Amalek, petit-fils d'Ésaü, frère jumeau de Jacob. Nous savons d'Ésaü qu'il a méprisé les choses saintes de Dieu en vendant son droit d'aînesse pour un vulgaire bol de soupe. La Bible dit que Dieu méprisa Ésaü à cause de son impiété. Et quand vous prenez le livre de Malachie 1, de versets 3 à 4, voici ce que la Bible dit. « Et j'ai eu de la haine pour Ésaü, j'ai fait de ces montagnes une désolation, j'ai livré son héritage au chacal du désert, qu'ils bâtissent, je renverserai, et on les appellera territoire de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. » En lisant ces paroles qui expriment la haine de Dieu pour ces nations, il nous faut garder présent à l'esprit que Dieu a toujours été plein de grâce et de miséricorde. L'Écriture nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa nature et son caractère ne changent jamais. Dieu était donc tout aussi miséricordieux dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Notre Seigneur est et a toujours été un Dieu d'amour, de miséricorde. Il dit pourtant ici, très clairement, que son irritation contre ses peuples durera pour toujours. Dieu parle ici de nul autre que Satan et cette puissance démoniaque. Amalek représente le mal, l'ennemi du Seigneur, celui dont la main s'est levée contre le trône de Dieu. Dès lors, jusqu'au temps de Jésus, nous voyons que Satan a toujours essayé de lever la main contre le trône de Dieu, en essayant de détruire la descendance qui devait donner naissance au Christ promis. L'ennemi a fait tout ce qui était en son pouvoir pour anéantir le peuple de Dieu. Ne vous y trompez pas, Satan savait exactement en quoi consisterait la descendance promise. Il était dans le jardin d'Éden où il a entendu Dieu dire à Adam que sa descendance écraserait la tête du serpent. Le diable était également présent sur le mont Morija quand Jéhovah Jireh pourvu à l'offrande du sacrifice en offrant un bouc à la place d'Isaac. Satan savait que cet animal représentait Jésus dont je vous ai parlé la semaine passée, l'agneau qui devait être immolé. Et il avait bien compris ce que Dieu voulait dire quand il annonça à Abraham que toutes les familles de la terre seraient bénies par sa descendance. C'est ainsi que Satan déclara la guerre au trône de Dieu. Il était déterminé à combattre les projets éternels de Dieu concernant la venue du Messie. Qui d'autre que Satan lui-même aurait bien pu posséder Pharaon? Cet homme mauvais était de toute évidence contrôlé par les puissances du mal. Il décréta que tous les enfants mâles en Israël devaient être jetés dans le fleuve et noyés. De toute évidence, Pharaon était le porte-parole et l'instrument sur terre d'un pouvoir démoniaque déterminé à mettre fin à la descendance promise. Aujourd'hui encore, Satan continue à livrer bataille contre l'Église de Jésus-Christ, descendante divine. Le diable s'affaire à détruire tous ceux qui veulent hériter de la vie éternelle par la promesse du Messie. C'est pour cela qu'il a dirigé ses armes contre quiconque se réclame du nom de Jésus. L'Écriture suggère que cette guerre que Dieu a déclarée à Amalek est un conflit perpétuel. Ici même, dans Exode 17, l'ennemi se prépare à engager une autre bataille. Satan a vu Israël en route pour Canaan, le pays promis où Dieu allait établir son peuple. Le diable connaissait les prophéties concernant ce pays. Il était bien conscient que la nation géographique physique d'Israël serait un lieu de repos où naîtrait la descendance promise. Il savait qu'une lignée y verrait le jour, une mère, une grand-mère, puis une arrière-grand-mère, etc., jusqu'à ce qu'une descendance ne donne naissance à l'enfant qui serait le Christ. À présent, le diable était déterminé à faire tout ce qui était en son pouvoir pour mettre un terme à l'accomplissement de cette prophétie. L'esprit de Satan a incité à provoquer la guerre contre Israël dans un seul but, annihiler la descendance d'Abraham par laquelle devait venir celui qui allait le détruire. En fait, le diable ne partait pas en guerre seulement contre Israël, mais contre Dieu lui-même. Comme nous l'avons déjà dit, sa main s'est levée contre le trône de Dieu. Ce n'est pas tant après les Juifs que Satan en avait, car le Christ auquel la nation juive devait donner naissance. Il s'agissait donc de bien plus qu'une simple guerre contre la chair et le sang. C'était une guerre entre le ciel et l'enfer. C'est ainsi qu'au fil des Écritures, nous voyons le peuple de Dieu constamment en conflit avec Amalek. Amalek était une nation contrôlée par Satan en personne. Et cette guerre serait une guerre perpétuelle livrée contre Dieu par les principautés, les puissances de l'enfer. Mais ce n'est pas dans le texte de Hébreux 14 que les Amalécites vont faire parler d'eux pour la dernière fois. Nous les retrouvons dans le livre de Nombre 14. Dieu ordonna alors à Israël de retourner dans le désert. Il refusa de les amener dans le pays promis à cause de leur péché et de leur incrédulité chronique. Il dira en quelque sorte aux Israélites, « Je ne vous accompagnerai plus, j'emmènerai vos enfants dans le pays de la promesse, mais vous n'y entrerez pas. Vous retournerez au désert pour y connaître 39 ans de souffrance. » Puis l'Écriture nous dit, « Alors descendirent les Amalécites et les Cananéens, et ils habitaient cette montagne. Ils bâtirent et taillèrent en pièces. Le livre de Nombre 14, verset 45, vous pouvez voir cela. Les Amalécites ont alors repris du poids de la tête et ils feront encore parler d'eux pendant 400 ans plus tard. Quand Saül deviendra roi en Israël, Dieu donna alors à Saül des instructions précises par la bouche du prophète Samuel. « Va maintenant, frappe Amalek, voue à l'interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras pas et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et agneaux, chameaux et ânes. » 1 Samuel 15, verset 3. Dieu disait en fait à Saül, « Je veux que tu tues chaque homme, chaque femme et chaque enfant d'Amalek et je veux que tu détruises tout le butin que tu pourras faire. » Amalek est mon ennemi juré, c'est ce que Dieu était en train de lui dire. Celui qui s'est juré de détruire la descendance promise, tu dois exterminer entièrement. Saül remporta cette escarmouche contre Amalek, mais il désobéit ouvertement au commandement divin en épargnant le roi d'Agad et en gardant les meilleures parts du butin lors de la bataille. Quand Samuel vit ce que Saül avait fait, il fut attristé à l'extrême. Le prophète prit alors les choses en main, saisissant une épée, il mit le roi Agag en pièces. Cela n'empêcha pas un reste du peuple d'Amalek de subsister et de revenir plus tard sur le devant de la scène. Le premier livre de Samuel relate plus loin une attaque des Amalécites contre David. Pendant que David et ses hommes combattaient sur un autre front, les Amalécites envahit le village de Tiklag et les réduisit en cendres, pillant tous les biens et kidnappant leur famille. David et ses hommes rentrèrent et virent ce qui s'était passé. Ils poursuivirent les Amalécites, finirent par les vaincre. Ils remportaient la bataille, récupéraient leur famille et tout ce qui avait été volé. Mais encore là, 400 Amalécites parvinrent à s'échapper. Des années plus tard, pendant le règne d'Ézéchias, la promesse de Dieu d'anéantir Amalek finit par s'accomplir. La Bible dit que les fils de Siméon combattirent les Amalécites. Ils battirent le reste des rescapés d'Amalek. 1 Chronique 4, verset 43. C'est ainsi que la prophétie de Moïse s'accomplit à la terre. Amalek n'existait plus en tant que nation. Seul un reste insignifiant subsista. Mais l'esprit qui possédait les Amalécites continua de tourmenter le peuple de Dieu. Si les Amalécites était désormais réduit à quelques survivants, l'esprit d'Amalek allait continuer de sévir dans le monde entier. Nous voyons cette vérité démontrée plusieurs générations plus tard, quand Aman, un homme possédé par le diable, allait exercer un certain pouvoir et comploter pour anéantir complètement le peuple juif. Mais il est en fait étonnant dans cette histoire. Aman était un Amalécite, un descendant lointain d'un roi d'Amalek du nom de Agag. En fait, tous les rois amalécites prenaient le nom d'Agag. Ce nom représentait une fonction, un titre comme celui de Pharaon chez les Égyptiens. L'Écriture appelle Aman l'adversaire des Juifs. Esther 3, verset 10. En ayant recours à la ruse et à la tromperie, cet homme inique convaincra un roi païen de signer l'arrêt de mort des Juifs. L'Écriture dit ceci. Les lettres furent envoyées par l'intermédiaire des courriers à toutes les provinces du roi. On devait exterminer, tuer et faire périr tous les juifs, du jeune garçon au vieillard, les enfants comme les femmes en un seul jour. Esther 3, verset 13. Vous connaissez la suite de l'histoire. Le Seigneur accorda à Esther l'attention du roi et le plan diabolique de Aman fut déjoué. Le diable subit là une grande défaite. Pas un seul juif ne fut tué et Aman finit au bout d'une corde, au bout de la potence qu'il avait lui-même faite bâtir et en vue d'exécuter Madoché. Alors, nous allons pouvoir dire que lorsque nous revenons à la bataille de Réphidim, alors Pierre nous alerte. Il nous dit ici, « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » De même, Paul écrit, cela leur est arrivé à titre d'exemple et fut écrit pour nous avertir, pour que nous qui sommes aujourd'hui les enfants de Dieu, cela puisse nous servir. Or, ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. 1 Corinthiens 10, verset 6. Nous croyons que Paul nous dit en fait, toutes ces choses, ces guerres, ces combats, ces conflits sont arrivés à Israël pour nous servir de leçon. Et l'Écriture nous les a rapportées pour nous mettre en garde face au combat spirituel que nous devons livrer. Nous apprenons des précieuses vérités du Nouveau Testament sur la personne de Christ en étudiant les aspects de la nature divine que nous révèle l'Ancien Testament. La première leçon que nous pouvons retirer est que nous prenons part au même conflit spirituel qui continue de faire rage. Paul a écrit, « Car nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominations, les ténèbres, des ténèbres ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Éphésiens 6, verset 12. Les premières attaques d'Amalek contre Israël étaient une sorte de guérilla menée dans le désert. Il prenait les Israélites par surprise en exploitant leur point faible par attaque surprise soudaine. Ils envoyaient par exemple des soldats pour attaquer par derrière. Alors même qu'ils voyageaient, c'est ainsi qu'ils pouvaient discrètement se débarrasser des plus âgés, des plus faibles, des infimes, et ils pouvaient pas avancer aussi vite, qu'ils ne pouvaient pas avancer aussi vite que les autres. Finalement, Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Exode 17, verset 9. Josué rassembla une armée de fortune, constituée d'hommes qui n'avaient aucune expérience de guerre. Ils étaient des bergers, des maçons, mais ils n'étaient pas des soldats. Ils n'avaient aucune arme, aucun bouclier, aucun char. Leurs ennemis, par contre, disposaient de tout cela, ainsi que des années d'entraînement. Il était clair qu'Israël n'avait aucune chance. Voici une autre leçon à retenir pour nous aujourd'hui. Quand l'ennemi surgit comme un fleuve, qu'est-ce que Dieu attend de son peuple? Il leur dit en fait, allez vous battre par la foi, même si vous semblez partir vaincu. Dans de telles situations, il est clair qu'il appartient de faire confiance à l'Esprit de Dieu afin qu'il élève l'étendard à notre faveur. Sinon, nous pouvons aussi choisir de céder à l'incrédulité en nous livrant ainsi à l'adversaire qui va faire de nous de ses esclaves. Permettez-moi de vous demander, comment vous réagirez dans une telle situation? Est-ce que vous allez vous laisser aller au désespoir tout en disant, est-ce que nous avons la force pour combattre? Telle est la réaction de bien des chrétiens aujourd'hui. Ils abandonnent. Il ne veut plus aller sur le terrain du combat, mais vous devez combattre le bon combat de la foi. Il est important de regarder de plus près la guerre que ces hommes ont conduite. Non seulement ces hommes n'avaient pas d'expérience de guerre, mais ils étaient loin d'être des soldats plus fiables et dignes de confiance. Peu de temps avant que ces hommes ne soient ici, ils étaient prêts à lapider Moïse simplement parce qu'il y avait un manque d'eau. Il accusait de les avoir fait sortir d'Égypte pour les tuer, eux et leur famille. Ils accusaient Dieu de les avoir abandonnés en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous ?» Si vous prenez Exode 17, verset 7. Dis-moi, comment peut-on s'engager dans un combat pour le Seigneur tout en doutant qu'il est de notre côté? Cette équipe était considérée comme des gens qui étaient misérables, qui doutaient de Dieu, et ils se plaignaient, ils murmuraient, ils oscillaient constamment entre une foi faible et une incrédulité caractérisée. Quelques années, les hommes vont prendre leur destin en main. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors Moïse va demander à Josué, « Alors, moi je suis sur la montagne, et toi Josué, il faut que tu sois sur le combat. » Et la Bible nous dit ici que à chaque fois que Moïse levait les mains, à chaque fois que Moïse levait les mains, Josué gagnait le combat sur la terre. Et cette image nous ramène à l'image de Jésus qui montait avec ce bois sur cette montagne. Et les mains de Moïse levées, qui représentent l'intercession, automatiquement, Josué était le plus fort sur le terrain. Et on voit une correspondance entre les mains levées de Moïse et la victoire de Josué sur le terrain. Jéhovah Nissi, notre bannière, ici, nous montre que aujourd'hui encore, nous pouvons espérer plus que jamais. Simplement parce que l'image de ce Christ qui est allé sur cette montagne, qui est notre bannière, qui est notre Jéhovah Nissi, nous montre que nous ne pouvons pas perdre. La victoire ne dépendait pas des stratégies orchestrées par Josué, mais la victoire dépendait des mains levées ou des mains baissées de Moïse. Aujourd'hui encore, nous pouvons espérer avoir ce Dieu de notre côté. Quand Paul était sur le chemin de Damas, il a vu une lumière et de cette lumière est sortie une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Mais Paul n'avait pas croisé Jésus physiquement, mais il persécutait les chrétiens. Mais ici, Paul avait une révélation profonde que en chaque chrétien, Christ était dans chaque chrétien. C'est pour cela que il pouvait lui dire, pourquoi me persécutes-tu? Et Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il venait d'avoir une révélation profonde que Nissi ne combat pas seulement pour nous, mais il est en nous. Jéhovah Nissi est en nous. Et la force qui est en toi est plus grande que celle qui s'oppose à toi. C'est pour cela que toi qui me suis ce matin, toi qui es désespéré, toi qui crois que tu es envahi par les problèmes, toi qui penses que tu es assailli par les problèmes, laisse-moi te dire une seule chose, que Paul aujourd'hui est devenu l'un des plus grands prédicateurs de l'histoire, mais il ne croyait pas en cela, il ne croyait pas en l'évangile, mais il est devenu le porte-parole de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur s'est révélé à lui, parce que Nissi s'est révélé à lui, au moment où il était en train d'attaquer les chrétiens, au moment où il était en train de les persécuter, en ce moment précis, Nissi s'est révélé à lui. Au moment où tu te crois persécuté, au moment où tu te crois envahi par l'ennemi, il faut regarder à l'Éternel comme au temps de Moïse. Lorsque Moïse levait les mains, les peuples d'Israël gagnaient. Maintenant, cela ne dépendait plus de Josué, de la stratégie de combat de Josué, mais cela dépendait des mains ou baissées de Moïse. Aujourd'hui, j'ai la joie et j'ai l'honneur de te dire que le Seigneur Jésus est encore à l'œuvre aujourd'hui. Il est non seulement été dit dans la Bible qu'il devait naître et les conditions dans lesquelles il est né sont décrites dans la Bible. Il est né effectivement dans ces conditions. Il est né à Bethléem comme la Bible l'avait dit. Il est né dans un endroit anodin, dans un endroit qui n'était pas un palace. Mais cela rapporte que l'évangile est vrai. Et il va mourir dans un certain nombre de conditions décrites par la Bible. Il est effectivement mort dans ces conditions. La Bible dit qu'il va ressusciter. Il est effectivement ressuscité. La Bible dit qu'il va monter au ciel. La Bible nous dit qu'il est effectivement monté au ciel. Et là où il est, il intercède pour toi. C'est pour cela que tu dois avoir la joie. Tu dois savoir que tout ce qui a été déclaré dans cette Bible a été réalisé. Et aujourd'hui, Nissi est sur le point d'accomplir des choses magnifiques dans ta vie. Tu ne dois pas désespérer. Tu ne dois pas rester là et pleurer. Tu ne peux pas dire que Nissi est ma bannière et rester chaque nuit couché sur ton lit et tu ne dors pas. Et tu es triste, tu es abattu. Tu ne peux pas affirmer que Dieu est ma protection, est mon refuge et il est ma bannière et avoir peur. Non, cela ne va pas ensemble. Tu ne peux pas croire et ne pas croire. Tu as le devoir de suivre Abraham dans sa foi. Et c'est pour cela que le Seigneur veut se révéler à toi ce matin. Le Seigneur vient à toi ce matin par ma voix pour te dire qu'il est ta bannière, pour te dire qu'il est avec toi, pour te dire qu'il est en toi. C'est pour cela que tu dois te lever. Toi qui étais abattu, toi qui étais découragé, toi qui ne voulais plus entreprendre, toi qui restais seulement à la maison, qui te disais il n'y avait plus d'avenir qui était possible pour moi. Mais le Seigneur ce matin te dit qu'il n'a pas perdu sa capacité. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La même force qu'il a donnée aux enfants d'Israël de pouvoir rester, demeurer victorieux, cette même force est à ta disposition aujourd'hui. Et cette même force est non seulement à ta disposition, mais elle est en toi. Et tu dois l'utiliser. Tu dois pouvoir avancer avec cette force. Ne crains point. Ne crains point. Avance avec Dieu. Avance avec Jéhovah Nissi. Nissi est avec toi. Nissi te garantit ta victoire. Tu ne combats plus pour la victoire, mais tu combats dans la victoire. Notre victoire est déjà déterminée. Il a dit, nous sommes plus que vainqueurs. S'il dit que nous sommes plus que vainqueurs, cela veut dire que nous allons avoir des combats. Parce que celui qui ne combat pas ne peut pas être déclaré vainqueur. Mais ce n'est pas l'acuité du combat qui compte, mais c'est la finalité. Or, toi, tu as déjà l'assurance de sortir victorieux. Donc, pourquoi tu peurs? Pourquoi hésites-tu? Engage-toi, n'aie pas peur et sache une seule chose, que le Seigneur est avec toi et que Nissi est avec toi et que Nissi assure ta victoire. Et que cette victoire est garantie parce que toutes les paroles de Dieu sont garanties par qui? pas Dieu lui-même. Ce n'est pas ce que tu sais. L'espoir ne vient pas de ce que tu sais, mais l'espoir vient de celui en qui tu as mis ta confiance. As-tu mis ta confiance en un homme? Dieu dit, maudit soit celui qui met sa confiance en un homme. Mais si tu as mis ta confiance en Jéhovah Nissi, laisse-moi te dire que cette confiance n'est pas vaine, que cet espoir est réel, que cet espoir n'est pas fictif, mais cet espoir est réel. Accroche-toi et Dieu certainement te fera voir sa gloire, car Nissi est à l'œuvre encore aujourd'hui.
Nissi est encore à l'œuvre aujourd'hui. C'était le pasteur Irénée Thier qui nous a parlé de l'un des précieux noms de Dieu, qui est Jéhovah Nissi, notre bannière, le Dieu victorieux. Chers auditeurs, ce message que vous venez de suivre vous a été proposé par l'Église à la Maison de la Destinée du révérend Georges Amoako, sise à la Riviera Bonhomé. Que Dieu vous bénisse.